נביא לה ברכה יום, וזה מיצות. והנה רגע נביא לה. C'est le jour de Pessah, puisque d'autre part, les halakhot concernant l'interdiction du travail sont reportés le jour du Yom Tov. Enfin, il y a d'autres raisons pour lesquelles ici le jour de Pessah s'appelle Shabbat. C'est-à-dire qu'il n'est pas du tout forcé que Pessah est tombé un Shabbat pour qu'on l'appelle Shabbat. Un jour de Shabbat dans la semaine. Alors ça a été l'objet d'une grande controverse, d'une part avec les Sadducéens, d'autre part avec les chrétiens pour la fixation du jour de Pâques et de Shavuot dans les différents calendriers. Je ne vais pas voir ça maintenant. Mais on continue. Sortez Lachem, Imachorat à Shabbat, Miyon Rabbi Achem et Omer à Tenufa. Depuis le jour où vous aurez amené, apporté, et dans Omer à Tenufa, la gerbe qui était présentée au temple. Tenufa, ça veut dire lorsque la première gerbe de la récolte était présentée au temple, le Kohen devait la balancer devant l'autel, le Mizbéach, Et c'est pourquoi ça s'appelle Omer Atenufa. Mais laissons le deuxième mot de côté, Omer, ça veut dire une mesure. Omer, ça veut dire une mesure de blé. Une gerbe, si vous voulez, à la limite, quoique ce n'est pas le sens littéral. Et ça, vous avez donc dû déjà apprendre. À partir du lendemain de Pessah, recommencer la moisson de l'orge. C'est clair? Et c'est à Shavuot qu'on donnait l'offrande de la moisson de blé. Voilà la différence. Alors, je vais d'abord vous expliquer ce premier principe. Dans toutes les sources que nous avons à ce sujet, Pessah et Shavuot sont reliés dans la même période. C'est-à-dire, tout se passe comme si Shavuot est considéré comme le huitième jour de Pessah, mais décalé de cette semaine. C'est-à-dire, Shavuot n'a aucune date pour elle-même dans le calendrier de la Torah. C'est-à-dire, il n'y a aucune trace que le jour du 6 Sivan, c'est la fête de Shavuot. C'est jamais dit comme ça. Et la fête de Shavuot, vous voyez, le mot de Shavuot, ça veut dire les semaines. C'est les 7 semaines après Pessah. C'est-à-dire, en fait, la date qui est fixée dans le calendrier, c'est la date de Pessah. Et Shavuot est compté 50 jours après, le lendemain de cette semaine, c'est pas 7-49. Ça veut dire que tout se passe comme s'il n'y a pas d'autonomie de la fête de Shavuot dans le calendrier par rapport aux dates, mais elle est l'achèvement de Pessah. C'est clair? Et c'est pourquoi elle est appelée aussi Atzeret. Qu'est-ce que ça veut dire Atzeret? La Ratzor, hein? Arrêtez, mais Atzeret, vous savez pas? Clôture. Atzeret, c'est la clôture. Donc, Shavuot, et ouais, si je mettais ça ici, Shavuot est considéré comme la clôture de Pessah. Ne vous trompez pas avec une autre fête qui s'appelle Atzeret, qui est Shmini Har Atzeret, qui est le huitième jour après Shavuot. C'est clair? Alors Shavuot est une fête pour elle-même qui est la fête des prémices. Elle s'appelle Haga Bikurim. Bikurim, les prémices. Tout le monde connaît ce mot? Cette semaine après Pessah et qui finalement tombe évidemment le 6 Sivan. Or le 6 Sivan, c'est d'autre part le jour où quel rapport le 6 Sivan 50 jours après Pessah, qu'est-ce qui s'est passé? C'est le jour de la promulgation de la Torah au Sinaï. Bon, mais nous n'avons aucune trace de cette date dans la Torah. C'est-à-dire, on s'aperçoit que ça coïncide. Donc, ça nous fait déjà plusieurs sujets à la fois. Je vais aller lentement. Le 6 Sivan, c'est le 50e jour après Pessah. ce jour-là, il y a une fête pour elle-même, qui est Chag HaBikurim, qui est la fête des prémices. Des prémices de quoi? Des prémices de la récolte de blé. Et on avait donc tout le temps, entre Pessah et Shavuot, pour apporter au temple la gerbe des prémices, Romer, des Bikurim, de blé. Vous y voyez? Alors, premier thème, la différence entre Pessah, qui est l'offrande de la moisson de l'orge, et Shavuot, qui est l'offrande de la moisson de blé. Vous avez appris ce parallèle? À propos de... C'est ce que tu as dit tout à l'heure, ce que je reprends. Avec qui vous avez étudié ça? Avec Yosef Zini, je suppose. Bon, vous me direz si ça vous rappelle quelque chose. Qui est d'autre de la Kitta Gimel? Il y en a d'autres. Okay. Vous vous rappelez de cela?
Il est dit en passant.
Bon, alors voilà, rappelez-vous ce premier principe. Pessah et Shavuot forment un ensemble relié, ou séparé, enfin relié en séparant, ou séparé en reliant, par ces 7 semaines. On va voir de quoi il s'agit. Et dans ce cas-là, Shavuot n'a pas de date autonome pour elle-même. C'est bien sûr le 6 Sivan, parce que le calcul du calendrier nous montre très clairement que si je compte 50 jours après Pessah, j'arrive au 6 Sivan. Mais c'est Atzeret de Pessah, la clôture de Pessah. C'est-à-dire, tout se passe comme si, laissez de côté maintenant le calendrier de Kutzlaret, où on ajoute un jour, mais tout se passe comme s'il y avait les 7 jours de Pessah, le 7e jour étant le passage de la mer Rouge, le lendemain, il y aurait pu avoir Matan Torah. C'est clair? C'est-à-dire que ça aurait été le 8e jour par rapport aux 7 précédents. Seulement ce 8e jour va être décalé de cette semaine. Alors qu'à Sukkot, Shemini Ha'atzeret arrive précisément le lendemain des 7 jours de Sukkot. Et Shemini Ha'atzeret, je reste dans le calendrier de l'Etzisraël, pour pas compliquer, c'est précisément Simchat Torah. Vous y êtes? Donc il y a un parallèle entre les 7 jours de Pessah et un 8e jour, mais décalé 50 jours après, c'est Shavuot, et qui s'appelle Atzeret de Pessah. Et d'autre part, Sukkot, les 7 jours de Sukkot, et le lendemain, Shemini Chag HaAtzeret, mais qui est Simchat Torah. Alors, je commence pour vous parler de cela. Okay?
C'est la même chose, Shemini Atzeret et Simchat Torah?
C'est la même chose, c'est le même jour. Seulement, dans Chutz La'aretz, comme il y a 2 jours de Shemini Chag HaAtzeret, on vit Simchat Torah le 2e. Mais en Eretz Israël, c'est le même jour. Vous suivez? C'est-à-dire, Chutz La'aretz, à Sukkot, il y a finalement 9 jours de fête. Il y a 7 jours de Sukkot qui sont 8. Okay? Non, c'est rare. Il y a 7 jours de Sukkot, le premier étant dédoublé. Okay? Ensuite, le 8e jour est dédoublé, ça fait 9. Et c'est le 9e jour seulement qu'on fait Simchat Torah, c'est-à-dire le 2e jour de Shemini Chag HaAtzeret de la Gola. Mais en Israël, il y a un seul jour de Shemini Chag HaAtzeret qui est lui-même Simchat Torah. Vous comprenez? Bon, alors je vais expliquer ça très rapidement parce qu'on reprendra tout ça plus en détail avec les autres. Et vous me noterez toutes ces questions quand on reprendra le cours sur Shavuot, que je n'oublie pas la moitié pour les autres. Et normalement, Sukkot et Pessah auraient dû être la même fête. Et vous remarquerez un parallèle très très étroit entre tout ce qui se passe le mois de Nissan et tout ce qui se passe le mois de Tishri. On va prendre d'abord ce tableau. Premier Nissan, c'est le jour de Parashat HaKodesh, vous vous rappelez, c'est le jour où va se décider la sortie d'Égypte. HaKodesh Azel Achem Rosh Kodashim, c'est le dernier verset qu'on a. Premier Nissan correspond au premier Tishri qui est Rosh Hashanah. Le 10e du mois de Nissan, on devait préparer le sacrifice de Pessah. Berassor LaKodesh, vous avez appris. Qu'est-ce que c'est le 10e de Tishri? Kippour. Ensuite, à la pleine lune, c'est la sortie d'Égypte. À Tishri, à Nissan, à Tishri, Sukkot, okay? Etc. Et correspond au passage à mer Rouge, le 7e jour de Pessah, correspond au Shana Rabba, qui est le dernier jour de Sukkot. Le lendemain, c'est Simchat Torah. Mais à Nissan, Matan Torah est décalé de 50 jours. Bon, je reviens sur ce principe. Bon, vous apprendrez ça par vous-même, cette correspondance, elle est facile à voir. Il y a un décalage entre Nissan et Tishri qui s'est produit. Autrement, la fête de Pessah, nous la ferions dans la Souka. Puisque dès qu'on est sorti d'Égypte, on est rentré dans le désert. Et qu'est-ce que représente la fête de Sukkot? Les 40 ans du désert. Okay. Alors, s'il n'avait pas été nécessaire de rester 40 ans dans le désert, mais s'il avait été possible qu'immédiatement, à la sortie d'Égypte, on rentre en Eretz Israël, alors il n'y aurait pas ce décalage entre Nissan et Tishri. Il n'y aurait pas ce décalage entre Pessah et Sukkot. Pessah se serait fait sous la Soukha, et le lendemain, ça aurait été Matan Torah que c'est Simchat Torah.
Attendez,
j'ai pas commencé encore à expliquer les questions après. Qu'est-ce qui est arrivé? Alors, pour bien le comprendre, et je schématise beaucoup, mais pour que vous compreniez bien l'idée centrale, il faut comprendre la différence bien entre le calendrier de Nissan et le calendrier de Tishri. Ça, nous en avons déjà parlé au début de l'année. Premier principe. Le calendrier qui commence à Tishri, c'est le calendrier que les patriarches avaient dans la civilisation de Ur-Kasdim. Rappelez-vous cela. Le calendrier qui commence à Nissan, c'est le calendrier de la sortie d'Égypte. À partir de la sortie d'Égypte. Enfin, je crois que j'y ai fait allusion au dernier cours qu'on a eu ensemble. Okay. Bon, ça c'est un premier principe. Le deuxième principe, c'est que le calendrier qui commence à Tishri commémore les événements de l'histoire du monde à l'échelle universelle. Alors que le calendrier qui commence à Nissan commémore les événements de l'histoire d'Israël comme histoire nationale, spécifique, particulière, personnelle. Oui. Donc, ça va jusque-là? Donc le décalage entre Nissan et Tishri, c'est le décalage entre le rythme de l'histoire d'Israël et le rythme de l'histoire universelle. Vous avez bien compris cela? Par conséquent, si à la sortie d'Égypte, la génération tout entière avait mérité de passer de Olam Hazeh à Olam Haba, il n'y aurait pas eu ce décalage entre la commémoration des événements spécifiquement de la nation d'Israël et ceux, c'est les mêmes, tout autre registre, à l'échelle universelle. Nissan, Tishri. Vous remarquerez par exemple que, quand vous étudierez bien tous ces textes, surtout du livre de Shmuel, précisément quand Israël sort d'Égypte, il va s'installer à l'endroit qui s'appelle Sukkot. Bon, alors revenons donc à notre problème. C'est que c'est ce même principe que la sortie d'Égypte a été un point de départ irréversible, mais qui reste encore à accomplir, à achever. Et pendant tout ce temps-là, il y a ce décalage entre la commémoration à partir de Nissan et la commémoration à partir de Tishri. Il y a un jour du calendrier de Tishri qui correspond aux deux ensembles, c'est le jour de Hoshana Rabba, qui est le septième jour de Sukkot, mais qui est en même temps l'achèvement des Yamim Noraim. C'est-à-dire Rosh Hashanah, Kippour, Rosh Hashanah Rabbah. Et c'est le jour de Rosh Hashanah Rabbah que coïncident les deux calendriers. Ça nous verrons en détail par là. Bon, ceux qui ont suivi attentivement les événements de la guerre de Kippour, vous saurez peut-être que c'est le jour de Rosh Hashanah Rabbah que la guerre a basculé. Qu'est-ce qui s'est passé le jour de Rosh Hashanah Rabbah de la guerre de Kippour? Vous vous rappelez que ça commençait à Kippour, c'était pendant tout ce côté. Hein? Exactement. On a passé la mer Rouge de l'autre côté. Et donc, je veux dire quelques mots sur la différence qu'il y a entre Shavuot, qui est Matan Torah, et donc Aseret de Pessah. Et puis, Shemini Chagara Tzeret, qui est Simchat Torah au lendemain de Sukkot. Ça vous fera un peu plus avancer dans ce problème, qui finalement est très simple, seulement il faut se familiariser. À Matan Torah, c'est-à-dire le Six Sivan, les premières tables ont été données. Comme il y a eu la faute du Vaudor 40 jours après, elles ont été brisées. On étudiait cela, le problème de de la faute du vaudeur. Vous vous rappelez, les deux prières de Moïse, tout ça. Quel jour c'était que les tables ont été cassées, brisées? Le 17. Vous avez une mémoire, non?
17h.
Le 17h, très bien. Et donc, ça veut dire que le peuple n'était pas à la hauteur des premières tables de la Torah. Alors elles ont été brisées. Je ne crois pas que ce point-là, on l'a étudié en détail. Non. Quand Moïse a cassé les tables, ça, on...
Parce qu'il ne voulait pas que le peuple soit en faute par rapport à la loi.
On a étudié cela.
On avait vu que dans la longtemps, la loi était seulement de dire...
Ah, peut-être rapidement.
Hein? Le peuple risquait d'être en faute par rapport à cette loi.
On l'a vu dans le verset. Oui, que quand Dieu dit à Moïse, Yashar Kohacha Shishibarta, tu as bien fait de les casser, c'est ça? Bon. Et donc, nous avons un premier événement. Les tables de la loi ont été données le 6 Sivan, mais au niveau de ces premières tables de la loi, le peuple n'a pas suffisamment de mérite. Finalement, elles sont brisées. Mais elles sont redonnées quand? 80 jours après, c'est-à-dire le. Quand est-ce que les deuxièmes tables ont été données? Ça, c'est important de comprendre. Alors, on va calculer. 40 jours, non. 40 jours après le 6 Sivan, ça fait 17 Tammuz. Ensuite, Moïse est remonté 40 jours pour prier. Et on arrive au premier Eloul. Ensuite, pendant 40 jours, il reçoit la deuxième table. On arrive au 10 Tishri, c'est-à-dire le jour de Kippour. C'est-à-dire, apparemment, on pourrait croire que le jour de Kippour n'a pas de correspondant historique, d'événement historique, parce que tous les jours du calendrier ont aussi une référence à un événement historique. En réalité, le jour de Kippour a lui aussi une référence à un événement historique, et c'est la première fois que le pardon a été donné par le fait que les deuxièmes tables ont été rendues. C'est clair? Alors après, on peut recevoir la Torah dans la modalité de Simchat Torah de Shemini Chatzeret. Vous comprenez la différence? Qui peut expliquer la différence? Les premières tables n'ont pas été supportées. C'était Matan Torah, mais il n'y a pas eu de Kabbalah. On ne les a pas reçues. Elles ont été données, mais on ne les a pas reçues. Les deuxièmes tables vont être reçues. Et alors, après, c'est Simchat Torah. Vous suivez? Et je vous dirai pourquoi c'est le lendemain de Rosh Hashanah Rabba et pas le lendemain de Kippour même, mais ça revient au même. Ça, je vous dirai tout à l'heure. Parce que les premières tables de la Torah, et c'est la loi compte non tenue de la Teshuvah. Alors que les deuxièmes tables, c'est la loi, mais compte tenu de la Teshuvah. Vous voyez la différence? Alors c'est pourquoi Simchat Torah vient après. Mais c'est la même histoire, mais à un niveau beaucoup plus bas. Et c'est clair. C'est-à-dire, c'est les mêmes. Non, c'est la même loi, mais avec une clause différente. C'est-à-dire, je vais essayer de trouver un... Oui, mais alors ça veut dire qu'on est beaucoup plus bas. C'est clair. C'est une loi avec session de rattrapage. L'examen de passage, bon, c'est à Nissan. Et puis la session d'octobre, c'est Tishri. Vous voyez ce que je veux dire?
Est-ce que le peuple n'a pas compris que la Tchouba existait, ou bien est-ce que vraiment elle n'est pas donnée?
Essayez bien de comprendre. La Tchouba, c'est très important. Mais c'est important pourquoi? Parce qu'on fait des fautes. A priori, on n'a pas à faire de fautes. Comprenez bien cela d'abord. Et après, je répondrai à votre question. Ah, okay. La Torah est donnée a priori pour qui? Pour les tzadikim. Voilà comment tu te conduis, toi, le tzadik. Et donc, a priori, vous allez voir deux bifurcations. Mais les deux sont vraies. A priori, si j'ai fait une faute, je ne suis plus concerné par cette loi. C'est-à-dire que je ne suis plus Israël. Si on m'a donné ma carte d'identité, la loi, ça, c'est toi. Si je fais une faute vis-à-vis de cette loi, je ne suis plus ça, je ne suis plus moi. Okay? Donc, en principe, je serai perdu. Pour pas que le peuple soit perdu, c'est les tables de la loi qui ont été cassées. Okay? Vous vous rappelez de ça? Et elles sont redonnées elles sont redonnées avec le, avec la clause suivante, que s'il y a une faute, ce qui casse la loi, elle peut être racolée. Ça veut dire qu'il peut y avoir tikkun. Suivez ? Bon. C'est donc une loi, la même, mais qui tient compte que l'homme est faillible. Donc c'est un niveau beaucoup plus bas. Je ne sais pas si je me suis bien exprimé, mais c'est l'idée qu'il y a. Ken ?
Mais c'est le même problème, est-ce que Dieu a oublié ce qui s'était passé lors de la création ? Le même problème s'est passé lors de la création de l'homme.
D'ailleurs, c'est, ça fait trois fois que tu me, depuis le début de l'année, que tu me poses le même genre de questions. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a entre le créateur et la créature une stratégie d'aménagement. Et c'est pas qu'il a oublié, c'est que c'est la même chose qui se passe.
Pourquoi ne pas la donner tout de suite, cette clause ? Parce qu'il savait déjà que...
La vraie loi, c'est la loi compte non tenu de la faute. C'est ça que je suis en train de vous expliquer. À un certain niveau, et il y en a un en tout cas, qui est au niveau de cette loi, c'est Moïse lui-même. C'est pourquoi c'est lui qui va prendre l'initiative de briser la loi pour sauver les autres.
Okay ? C'est lui qui refait le deuxième
problème. Ça, c'est un autre problème. Non, c'est quand même Vechatarti à Alokhot, c'est là l'écriture de Dieu dans les deuxièmes aussi, c'est un autre problème. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ces deux récits sont à deux niveaux de vérité absolue tous les deux. Et c'est par là que s'intègre dans le temps de notre histoire un processus d'absolu qui, s'il ne s'intégrerait pas comme ça, ne pourrait pas être porté, supporté. Mais c'est ce processus d'absolu qui doit être récupéré. Alors, attention, deux principes que vous devez comprendre, les deux à la fois, bien que isolés, ils pourraient apparaître comme contradictoires. Premièrement, ça veut dire, voilà la loi. Si ton identité n'est pas compatible avec cette charte d'identité, tu n'es pas celui que ça concerne. Et ça voudrait dire que quiconque faute est perdu. Ça, c'est le premier niveau. A priori, cela devrait être ainsi. Mais ce n'est pas ainsi que le monde a été créé. Je pense que tu te référais au Midrash, Midat Adin, Midat Arachamim. C'est exactement le même problème. Okay ? Exactement le même. C'est-à-dire, normalement, nous devrions être dignes de la Midat Adin. Okay ? Et puis, seulement, il y a un examen de rattrapage. Et il ne faut pas croire qu'il y a moins de mérite. Au contraire, il y a plus de mérite. Mais c'est encore un autre point. Et alors, le deuxième principe, c'est que lorsque la Torah est donnée avec la clause que s'il y a faute, il peut y avoir tikkun, kapara, alors la Torah peut être reçue de simcha. C'est pourquoi après Kippour, il y a simcha Torah, alors qu'après Pessah, il y a matin Torah. Voilà la différence. Alors, dire, la réponse, il faut bien entendre ça. Si la Torah ne concernait que Israël, déjà authentifié par l'histoire des patriarches, Israël, déjà authentifié par l'histoire des patriarches, les tzadikim peuvent recevoir les premières tables. Hein? Seulement Israël a pris en charge toute l'humanité. Vous vous rappelez de ça? Bon. À ce niveau-là, il faut la clause de la tchouva. Et c'est clair? Si c'était que les Bnei Israël qui ont la Torah, et c'est récapitulé dans l'identité de Moïse, il est évident que c'est les premières tables pour recevoir. Comprenez bien une chose, c'est les mêmes, c'est la même loi absolument, mais à deux niveaux d'identité radicalement différents. Okay. Bon, alors ça c'était, comment dire, le problème de la différence entre Shavuot et Simchat Torah. Matan Torah et Simchat Torah. Vous voyez pourquoi les deux s'appellent Atzeret. Un c'est Atzeret de Pessah et l'autre c'est Atzeret de Sukkot. Vous voyez ? Et c'est même, Sheminicha Atzeret, c'est Atzeret des trois fêtes de pèlerinage d'ailleurs. C'est la clôture de tout le cycle qui commence à Pessah, Shavuot. Alors je reviens maintenant au point précédent. Pourquoi il n'y a pas de date particulière pour, dans le calendrier de la Torah pour, merci. Pourquoi il n'y a pas de date particulière pour Shavuot ? C'est-à-dire que c'est relié à Pessah. Regarde, tu ouvres là si jamais il y a un téléphone. Tu regardes si sur mon bureau j'ai mes cigarettes. Trop fort pour moi.
Cette clause, elle n'a pas été donnée pour les autres nations.
C'est pas contraire. Uniquement. Vous rappelez que. Je vais expliquer. Vous rappelez que quand on a étudié le problème du LRA, La raison pour laquelle Dieu commence par dire je vais les détruire, il n'y a pas d'issue. Okay? Vous rappelez? Parce qu'en caché au rêve, c'est-à-dire qu'ils sont incapables de se repentir. Ce qu'il faut apprendre aux nations pour qu'ils acceptent la Torah, c'est que le repentir est possible. Israël, comme tel, Israël originel, n'a pas besoin du repentir, parce qu'il ne lui faute pas. Abraham n'a pas fauté, Isaac n'a pas fauté, Jacob n'a pas fauté. Ils peuvent recevoir la Torah. Okay? Mais comme nous devons la recevoir à titre de l'humanité tout entière, il faut qu'il y ait la clause de la Torah.
Les
Israéliens ne
sont jamais
fautés. Jamais. Jamais. On ne sait pas à quel point. Vous ne connaissez pas bien les textes. C'est des hypothèses. Et vous ne connaissez pas les textes, vous aurez appris vraiment tous les textes, vous verrez qu'il y a un mystère. Quelle faute a fait Moïse, on ne sait pas. Mais comme il devait quitter le monde, il fallait qu'il y ait une faute. Mais le contenu de la faute, ce n'est pas clair. Okay. Il y a des bibliothèques entières là-dessus. Mais je vais vous raconter un midrash qui est dans le midrash de Rezot Abraha qui s'appelle Ptirat Moshe. Au moment où Moïse arrivait à 120 ans, pile, vous rappelez ce qu'on a étudié à Pourim, devait quitter le monde, la Neshama de Moïse ne veut pas quitter le monde. Et je vous ai raconté ce midrash ?
Non.
Et le Malach HaMavet, l'ange de la mort, vient faire son travail et chercher la Neshama de Moïse. Il y a un très long midrash, très profond, et la Neshama de Moïse refuse. Et alors l'ange de la mort est très embêté, il ne peut pas faire son travail. Et on se plaint à Dieu, et Dieu s'adresse à Moïse. Et la Neshama de Moshe discute, et elle se compare à tous les grands du monde, en particulier Abraham, et elle démontre qu'elle est plus grande que la Neshama d'Abraham, que Isaac, que Jacob, etc., par moyen de trouver une faille. À la fin, Dieu dit à Moïse, mais tu dois mourir parce que tu as fait une faute. Et Moïse demande laquelle. Et on reprend toutes les hypothèses, même celle de laquelle. Il n'y a pas de faute. Alors à la fin, Dieu dit à Moïse, tu vas mourir parce que tu as tué l'Égyptien. Ça, on oublie, ça aurait pu être une faute. Et alors Moïse, cet homme, il dit comment ? Je vais mourir parce que j'ai tué un Égyptien, mais toi, tu les as tués tous. Alors Dieu lui répond, oui, mais moi, je peux le ressusciter, pas toi. Alors, la Neshama de Moïse accepte de quitter ce monde. Mais en fait, ça, c'est un exemple parmi d'autres que c'est pas évident que Moïse ait fait une faute là-bas.
Et c'est par exemple, le fait de refuser la mort comme ça. C'est vouloir une mentalité, et vouloir une mentalité, qu'est-ce que c'est ?
Tu veux dire que c'est de l'orgueil ?
D'une certaine façon, c'est vouloir se comparer à Dieu ou être Dieu.
Attends, mais c'est ce que Dieu a voulu en nous créant. Tu vois, tu raisonnes en français. Enfin, en langue française. Et je ne sais pas pourquoi, mais Dieu m'a créé. Il est évident qu'il ne m'a pas créé pour être provisoirement vivant sur Terre entre l'année X et l'année Y. Il m'a créé pour exister, vraiment.
Mais on existe.
Je
veux dire, même après, c'est pas...
Non, mais c'est ça l'immortalité, alors où est l'orgueil?
L'orgueil, c'est de ne pas voir cette mort-là.
C'est de l'humilité profonde de vouloir que la volonté de Dieu s'accomplisse.
Alors,
non, c'est-à-dire, tu comprends pas le problème. Je ne sais pas pourquoi Dieu a voulu me créer, mais il faut que je me réussisse, c'est très important, lui doit savoir pourquoi. Et alors, il faut inverser les données du problème. La Neshama de Moïse a conscience qu'elle n'a pas à mourir pour monter au ciel. Elle peut monter vivante. C'est ce qui est arrivé d'ailleurs.
Mais c'est de ne pas pouvoir accepter la volonté de Dieu, quelle qu'elle soit.
Mais oui, mais la volonté de Dieu,
c'est que c'est mieux, ce que je décide est mieux pour moi.
Pas du tout, pas du tout, pas du tout. La volonté de Dieu, c'est qu'il n'y a de mort que s'il y a de faute. Alors la Neshama de Moïse, elle est au jugement dernier, à ce moment-là, elle discute, où est ma faute ? Et quand on étudie ce Midrash, on est épouvanté, parce que c'est vrai, tout ce que le Midrash dit. Et on reprend tous les textes, on s'aperçoit que dans tous les cas, c'est Moïse qui a raison. Bon. Alors à la fin, il se dévoile un secret. Okay ? Il a tué l'Égyptien. Mais s'il n'avait pas tué l'Égyptien, toute l'histoire du monde aurait basculé dans le néant. c'est en tuant l'Égyptien que l'histoire a passé du côté d'Israël. Vous comprenez, on a étudié ce texte. Non, mais enfin, vous l'avez lu. Et on y arrivera. Mais regardez bien le verset, il n'y a pas qu'il l'a tué. Et qu'il l'a frappé, il l'a enfoui dans le sable. Bon. Mais dans tous les cas, peu importe, ici se dévoile un secret, c'est qu'il y a quand même une différence entre Dieu et Moïse. Pour aller à la lumière, on peut se demander, mais oui, la différence, c'est que Dieu peut ressusciter, même les Égyptiens, alors que Moïse ne peut pas. Alors c'est... Non, je te raconte un passage pour expliquer que c'est pas évident que le fait d'avoir frappé sur le rocher, c'était ça la faute de Moïse. Bon, puisque je vous ai parlé de ça, ça c'est la thèse de Maïmonide, dans un chapitre célèbre des choses attractives, qui dit, une des fautes les plus graves, c'est la colère. Dans tous les cas, c'est vrai qu'une des fautes les plus graves, c'est la colère. Ça, c'est pas nécessaire que Maïmonide nous le dise, on le sait. Mais Maïmonide a utilisé cela pour nous dire la preuve, c'est que c'est à cause de la colère de Moïse qu'il a été privé de rentrer en Eretz Israël. Et plus que ça, que quelqu'un qui se met en colère, s'il est prophète, sa prophétie s'arrête. Et même au niveau où nous sommes, il est évident que quelqu'un qui se met en colère n'est plus capable de raisonner. Vous voyez, donc à tous les niveaux. Et alors, il donne comme exemple que lorsque les Hébreux ont demandé de l'eau, Moïse s'est mis en colère et a frappé le rocher avec le bâton. Hein. Puisqu'il a frappé le rocher avec le bâton, l'eau est sortie quand même. Mais, étant donné qu'il s'est mis en colère, alors Dieu lui dit, puisque vous ne m'avez pas sanctifié mon nom aux yeux du peuple, ni toi ni Aaron, vous n'entrerez en Eretz Israël. Rappelez du contexte. Je vais vous le dire encore très schématique. Eh bien, ce n'est pas du tout évident. Ce n'est pas du tout évident parce que il y avait déjà une première fois où le peuple a demandé de l'eau. Et Dieu a dit à Moïse, prends ton bâton et frappe le rocher. Et alors la deuxième fois, quand ils ont demandé de l'eau, Moïse a pris le bâton et a frappé le rocher. Et il leur a dit, Shimondin, Morim, fils rebelle, est-ce que de ce rocher, vous voulez que je vous sorte de l'eau? Bon, on ne comprend pas très bien ce qui se passe, parce que qu'est-ce que ça veut dire faire sortir de l'eau du rocher? C'est encore un autre problème. Mais admettons qu'on comprenne le récit, ce n'était pas un bâton de sorcier. Admettons qu'on comprenne le récit. Après tout, Moïse a fait que ce que Dieu lui avait dit de faire la première fois. Okay. Vous y êtes? Bon. Et alors, Maïmonide explique ça en disant, Moïse s'est mis en colère, il a été puni. Et d'une certaine manière, il est disqualifié, c'est ce jour-là qu'il a été décidé que Josué le remplace. Okay. Et on comprend très bien le système de Maïmonide. C'est que plus on est grand, et la plus petite vétille, ça devient une faute très grave. Seulement, les kabbalistes ont objecté à Maïmonide. Tu raisonnes comme s'il n'y avait pas de sainte colère. Il y a des saintes colères. Et que peut-être Moïse, d'ailleurs sûrement, Moïse avait raison de se mettre en colère. Et que si finalement il a été puni de ne pas entraîner Eretz Israël, c'est pas du tout parce qu'il s'est mis en colère, parce qu'il avait raison de se mettre en colère, il avait affaire à des voyous. Vous voyez comment est l'analyse du problème. Pourtant, si on revient au contexte, on voit que Dieu a dit qu'il fallait parler et pas frapper. On revient à la difficulté. Bon, je vais vous donner la réponse. C'est que, jusque-là, Moïse avait la patience suffisante pour plaider pour le peuple chaque fois que le peuple se révoltait. Ce jour-là, il n'a pas plaidé pour le peuple. Sa faute, ce n'était pas de se mettre en colère, c'était de n'avoir pas justifié la révolte du peuple. Et ça signifiait qu'il était devenu trop haut. Pour diriger Israël, il fallait donc quelqu'un qui soit beaucoup plus bas que lui. C'est tout à fait autre chose. Mais faute, il n'y a pas. Au contraire, où était sa faute? C'est d'avoir été trop grand. C'est-à-dire, on voit, à partir de la sortie d'Égypte, Moïse et le peuple se séparent. Moïse est de plus en plus grand et le peuple est de plus en plus bas. Et à un moment donné, il y a un bilan que Dieu fait. Bon, tu ne peux plus être à leur tête, tu vas préparer Josué, c'est lui qui va. J'ai compris l'idée générale. Quel est le problème là? C'est que le vrai Moïse, c'est le Moïse qui est très haut. Alors il s'est montré à nous une fois pour nous dire voilà à quelle hauteur vous êtes arrivé. Okay. Et maintenant recommencer avec Josué depuis en bas pour arriver jusqu'en haut. Et c'est en haut qu'on rencontrera Moïse. Mais c'est le vrai Moïse, il est En haut, je veux dire, au niveau des valeurs. Est-ce que c'est clair? Donc, Moïse est lui-même, il n'y a pas de faute. C'est le peuple qui a fauté. Seulement, qu'est-ce qui se dévoile? C'est qu'il ne peut plus justifier le peuple. Parce que l'écart s'est trop creusé. La première fois, oui, la deuxième, non.
Est-ce que c'est le même problème que pour Hanor?
Hein?
Est-ce que c'est le même problème que pour Hanor qui n'y arrive pas non plus à Hanor?
C'est parallèle, disons. C'est parallèle. Il y en a trois comme ça, c'est Hanor, Moïse et Lyon. Et les trois sont montés au ciel vivant. C'est parallèle, c'est pas le même problème. Donc, vous avez compris le...
Que
vous avez compris qu'on comprend pas.
Je faisais parallèle avec le fait que de s'éloigner du peuple, de se montrer à une homme plus grande que le peuple, c'est aussi un échec de l'éducation.
Non, c'est, avec Moïse, c'est tout le contraire de Hanour. Hanour s'éloignait du peuple, tandis qu'avec Moïse, c'est le peuple qui descend. Et alors, le peuple n'est plus dans la madriga d'avoir Moïse à sa tête. Josué, oui, c'est un autre type de prophète. Mais au niveau de Moïse, le peuple n'est plus au niveau de Moïse. Il y en a un seul qui est au niveau de Moïse, c'est Josué lui-même. Et il n'y en a pas d'autre à ce moment-là. Et c'est la raison pour laquelle il y a ce décalage. Si vous voulez, je vais faire un tout petit schéma au tableau. Et, au Sinaï, le peuple a été hissé d'un coup à la hauteur de Moïse. Okay. Et après, le peuple redescend au niveau où il est à la sortie d'Égypte, et il faut qu'il remonte, et il faut toute l'histoire pour ça. Vous y êtes ? Ça y est, c'est clair ? C'est clair ce chemin ? Oui, tout de suite après le Sinaï, une chute terrible. Okay. Mais on est tombé en se rappelant d'où on est tombé. Et maintenant, il faut remonter. Et c'est à la fin des temps qu'on remonte. Au niveau où il est. Ça y est, c'est clair? Je vais vous expliquer je crois que c'est à vous que j'ai expliqué ça. Voilà. Un enseignement qui a été donné à la Yeshiva, tu vois, sur Narasé Vichma. Vous connaissez l'expression Narasé Vichma? Narasé Vichma, ça veut dire nous ferons et nous entendons, littéralement. Bon, à propos de Shavuot, on étudiera ça assez en détail, parce qu'il y a beaucoup d'imprécisions sur cet enseignement. Normalement, c'est la relation à la loi. Normalement, il faut entendre avant de savoir quoi faire. Donc l'ordre est anormal. Okay. Normalement, il devrait y avoir Nishma, Venaase. Maman, comment vous avez
Oulai.
Vous suivez? Alors, vous retiendrez le fait que... Vous rappelez que ce verset, les Hébreux l'ont dit au pied du Sinaï. Okay? Vous retiendrez d'abord que le pshat, c'est... Le verset dit... Kol asher dibber Hashem...
Le téléphone est ouvert là-bas. Ils sont là-bas et ils ne te croient pas. Tu sais, le capteur est là-bas. Tu veux que je le
dise? Qui est-ce que tu as le capteur?
Je pense que tu as marre avant qu'il sorte.
Bon, non. Non, c'est pour ça que j'ai dit d'ouvrir. Parce que je risque d'être appelé de...
Maintenant, il parle.
De Rutslavet. Tom, au pied du Sinaï, le peuple dit, quand Moïse dit, Dieu va vous donner la loi, le peuple dit, tout ce que Dieu dira, nous ferons et nous écouterons. Narasé, Venishma. Vous y êtes? Normalement, il devrait y avoir Nishma et Narasé. Parce que avant de savoir quoi faire, il faut écouter pour savoir quoi faire. Alors, le pshat est tout à fait différent. Et j'ai remarqué que vous avez surtout entendu, je suppose, le drash de la Gemara, mais on oublie de dire le pshat d'abord. Le drash de la Gemara, c'est que... c'est que la vertu d'Israël, c'est de faire avant même de savoir ce qu'il faut faire. Bon, c'est un très joli drash que je vais expliquer tout à l'heure. Narasé, et après on verra si on comprend ou on ne comprend pas, mais de toute façon on va faire. Mais pour savoir ce qu'il y a à faire, il faut entendre. Vous voyez donc que c'est allogique. Le pshat, c'est le suivant. Depuis la sortie d'Égypte, on avait entendu quelques mitzvot. Okay. En particulier, les mitzvot qui ont été données à Mara, qui est une station entre la sortie d'Égypte et le Sinaï. Alors le peuple dit tout ce que Dieu a déjà dit, Narasé, nous allons le faire. Venishma, et nous sommes prêts à écouter s'il y a encore à faire. Vous voyez quel est le pshat, le autant que ça. Quand Hachem libère Hachem, Narasé, Venishma. Vous avez compris? Il y a eu d'abord des mitzvot qu'ils ont entendus. Ils ont dit celle-là, on est déjà prêt à faire. Et puis maintenant, s'il y a encore à écouter, on est prêt à écouter pour savoir quoi faire. Allez, c'est clair. Bon. Alors là-dessus, la Gemara interprète de la manière suivante en disant que la vertu d'Israël, c'est d'être prêt à faire avant même d'entendre. Et le fait d'être prêt à faire, c'est ça qu'on nous fait entendre. Voilà le drache de la demande. Ça y est, c'est clair? Vous avez bien compris? Donc, alors, le chidouche que je voudrais vous expliquer maintenant, un petit peu un peu plus haut, c'est que le peuple a dit jusqu'à présent, on a entendu Dieu nous parler, la Torah, sans avoir rien fait pour ça. Alors maintenant, nous allons faire par nous-mêmes pour pouvoir entendre après avoir fait, c'est-à-dire après avoir acquis un mérite.